Bonjour à tous et oui, c'est une édition spéciale jusqu'à 14h pour tirer tous les enseignements de ces élections européennes en regardant la carte de France notamment. Soyez les bienvenus. En France, le RN, après ses européennes, est en tête dans près de 80 départements. Les métropoles votent En Marche et Écolo. La percée verte, voilà l'un des faits marquants de ce scrutin. Avec la hausse de la participation, les jeunes se sont mobilisés pour voter Écolo. La droite est en crise ouverte. Laurent Wauquiez pourra-t-il tenir? Déjà des appels à démission ou à changer complètement la ligne politique chez les Républicains. Il y a des bémols à mettre à la victoire du Rassemblement National qui ne progresse pas. La majorité limite la casse, crise larvée chez les insoumis et puis question, quel vote dans les villes, les places des gilets jaunes. Mais d'abord, dans cette édition spéciale, nous irons en Europe. Si en France, le duo En Marche RN domine le paysage, au Parlement européen, le paysage se fracture au contraire. Adieu, les petits compromis tranquilles entre droite et sociaux-démocrates, percées populistes, centristes, écologistes pour gouverner plus qu'avant. Il faudra des coalitions. Le paysage est difficile à lire. Reste que les scores de la droite radicale sont impressionnants dans certains pays. Pologne, Hongrie, Italie. Et en Allemagne, le soleil se couche un peu plus sur le règne d'Angela Merkel. Les européennes, édition spéciale jusqu'à 14h. Nos invités sont la géographe Béatrice Gibelin, qui lit fort bien les cartes et la politique. Stéphane Zumsteg, directeur du département politique et opinion chez Ipsos. Et puis tout à l'heure, Jérôme Fourquet nous rejoindra, l'homme qui a théorisé la transformation de la France en un archipel. Les autres grands titres de l'actualité, le mariage de l'année et même plus en vue dans l'automobile, Renault-Nissan et Fiat Chrysler. Trois gardes à vue à Lyon, trois jours après l'explosion d'un colis piégé rue Victor Hugo. Et puis nous irons à Roland-Garros, Nadal, Djokovic et Williams sur le terrain. La météo, bonjour Jean-Pierre Hameau.
Bonjour Bruno.
Quel est le temps aujourd'hui?
Eh bien nous allons retrouver une perturbation très nuageuse avec de faibles précipitations de la Nouvelle-Aquitaine au Massif Central et jusque vers les frontières du Nord-Est et de l'Est. Mistral et Tramontane vont dégager le ciel autour du Golfe du Lion et jusqu'en basse vallée du Rhône. Prévoyez des averses orageuses des Alpes-Maritimes à la Corse et vous apprécierez le retour de belles éclairs dans l'ouest, le nord-ouest et le nord, et à Roland-Garros aussi.
C'est parfait, merci Jean-Pierre Hameau. Le 13h, édition spéciale européenne, nous sommes ensemble jusqu'à 14h.
France Inter.
L'un s'affirme un peu plus, l'autre s'approche un peu plus de la sortie. Deux dirigeants européens, Matteo Salvini triomphant en Italie, Angela Merkel qui perd encore des couleurs en Allemagne. L'Italie d'abord. Alors il y a des bémols à mettre à la poussée des populistes et de l'extrême droite en Europe, on le fera tout à l'heure. Mais là c'est un des pays où elle est indiscutable cette poussée. 34% des voix pour la Ligue, songeons qu'elle était à peine à 6% il y a 5 ans, à 17% aux législatives l'an dernier. Plus que jamais leader en Italie, cette Ligue, ses partenaires adversaires au gouvernement, les 5 étoiles font la moitié de son score et leader des populistes européens. Bonjour Mathilde Imberti.
Bonjour Bruno, bonjour à tous.
Correspondante de France Inter à Rome, c'est un Salvini triomphant qui s'est exprimé ce matin.
Oui, un Matteo Salvini tout juste marqué par la très courte nuit. Il tenait en fin de matinée une conférence de presse dans les locaux de la Ligue à Milan. Il convainc 34% des Italiens, double son nombre d'électeurs en l'espace d'un an et ne peut pas s'empêcher une petite pique.
Celui qui vous parle en ce moment était un crétin et un raciste, selon la plupart des journaux italiens. Aujourd'hui, c'est un chef d'État reconnu mondialement. Vous voyez les procès d'intention et l'inquisition publique? Ça ne fonctionne plus en 2019.
Sur le fond, qu'est-ce que ça change, ce triomphe de la Ligue? En Europe, d'abord, elle va passer de 6 eurodéputés à 28, plus de sièges que Marine Le Pen et son Rassemblement National. Matteo Salvini veut d'abord revoir les paramètres budgétaires de l'Union. La règle des 3% de déficit ne l'a jamais convaincu.
Ce qui m'intéresse, c'est ce mandat fort que me donnent les travailleurs italiens pour renégocier des paramètres erronés. Par exemple, c'est évident que la coupe de 3 millions d'euros qui menaçait les agriculteurs italiens n'a plus lieu d'être. Les 9 millions d'Italiens qui ont voté pour nous nous demandent de rediscuter les politiques agricoles, commerciales et surtout les politiques du travail.
Voilà, vainqueur mais pas bêcheur, Matteo Salvini, il n'enfonce pas son allié de gouvernement, le mouvement 5 étoiles, pourtant lourdement sanctionné. Luigi Di Maio n'encaisse que 17% des voix. Le rapport de force s'inverse, le gouvernement tient, mais la Ligue va faire passer en priorité sa politique, la baisse des impôts pour les entreprises, l'autonomie des régions aisées du Nord, la relance des grands chantiers, y compris celui de la ligne grande vitesse Lyon-Turin entre l'Italie et la France.
Merci Mathilde Imberti en direct de Rome. On retiendra encore que dans les lieux où se noue le débat sur l'immigration en Italie, la Ligue fait des scores très élevés. 46% des voix à Lampedusa, 44% à Vintimille. L'extrême droite et les populistes en force en Grande-Bretagne. Le parti du Brexit largement en tête, 32% des voix. En Pologne, la droite radicale à 46%. En Hongrie, le parti de Viktor Orban au-delà des 50%. Et l'Allemagne, certes, la CDU-CSU, le camp d'Angela Merkel est en tête et fait un score dont Emmanuel Macron se contenterait volontiers, 28 points, mais ils perdent 7 points par rapport à 2014. Dans le même temps, les écolos allemands doublent leur score, le SPD dégringole. Annegret Kramp-Karen Bauer, la chef de la CDU, le camp de Madame Merkel, tire les premiers enseignements. Elle reconnaît qu'ils ont raté le phénomène écologiste, la droite allemande. David Philippot, vous êtes à Berlin pour France Inter. Ce qui est reproché à Angela Merkel, c'est son immobilisme.
La grande coalition apparaît bien petite au lendemain du scrutin. Moins de la moitié des électeurs ont voté pour les deux grands partis au pouvoir et c'est donc une sanction pour Angela Merkel qui incarne ce mode de gouvernement consensuel. Sa pondération naturelle apparaît comme un handicap à un moment où les Allemands considèrent la question climatique comme une urgence. 9 électeurs sur 10 en avaient fait la priorité de leur vote et les tergiversations sur le diesel, sur la fin du charbon en 2038 apparaissent comme des renoncements, particulièrement aux yeux des jeunes électeurs. Chez les moins de 30 ans, un Allemand sur 3 a voté vert. Mécaniquement, cette chancelière affaiblie sur ses terres le sera aussi sur la scène européenne. Les conservateurs allemands, premier contingent de députés jusqu'alors, vont compter 5 élus de moins à Bruxelles. Berlin, David Philippot pour France Inter.
Alors, progression des populistes, des écologistes, des centristes. De ce point de vue-là, il y aura bien un effet Macron au Parlement européen. Les deux grands groupes historiques, PPE, la droite, et les sociaux-démocrates perdent des plumes à Strasbourg. Bonjour Angélique Boin.
Bonjour.
Vous êtes à Bruxelles. C'est un Parlement fracturé qui siégera désormais.
Oui, à l'image de bien d'autres pays, car on assiste ici à la fin du bipartisme qui régnait depuis 1979 dans ce Parlement. La droite et la gauche vont devoir clairement revoir le jeu des alliances avec les centristes ou les verts pour faire avancer les réformes. Et le partage des postes clés s'annonce bien ardu. Le PPE, la droite, reste majoritaire avec 180 sièges, 24% des voix. Les socialistes deuxième avec 146 sièges, près de 20%, mais ils n'ont plus la majorité à eux seuls. Les centristes et libéraux, renforcés par les élus macronistes, devrait être 109 élus avec 14% des suffrages. Selon les estimations quasi définitives fournies ce matin, cela pèse. Les Verts, qui n'espéraient pas un tel score, 9% à l'échelle européenne, seront près de 70 dans l'hémicycle. Les alliances se noueront donc à 3 ou à 4 et les discussions ont déjà débuté en coulisses. Enfin, du côté des eurosceptiques, on n'a pas fait le plein escompté, mais la poussée est vraiment très nette. On n'a pas encore la constitution des groupes, mais les deux les plus à droite affichent déjà 112 élus. Ils seront plus de 170 si on ajoute les plus modérés, juste un peu moins nombreux que le PPE. Enfin, la gauche radicale, elle est en baisse avec 5% des suffrages et 39 sièges contre 46 auparavant.
Merci Angélique Boin, correspondante de France Inter à Bruxelles en direct avec nous. J'accueille nos deux premiers invités dans cette édition spéciale jusqu'à 14h. Bonjour Béatrice Gibelin.
Bonjour.
Géographe, directrice de la revue Hérodote, et bonjour Stéphane Zumsteg.
Bonjour.
Qui nous accompagne sur France Inter depuis de longues heures et de longues journées, directeur du département politique opinion chez Ipsos. Quelle lecture faites-vous l'un et l'autre au plan européen de ce scrutin, Béatrice Gibelin?
Le changement énorme, c'est que cette alliance tranquille qu'il y avait entre le SPD et le PPE, comme ça a été rappelé, où au fond, les arrangements entre soi, de façon plus ou moins consensuelle, et surtout quand même assez opaque, ne vont plus pouvoir avoir lieu. En ce sens, c'est une très bonne nouvelle pour l'Europe, parce que le Parlement européen va devenir un lieu de débat, d'affrontement, de discussion, d'alliances qui vont peut-être varier en fonction des thèmes. Là, maintenant, le jeu est ouvert et je pense que médiatiquement, on va beaucoup plus s'intéresser à ce qui se passe au Parlement que ce qui se passait auparavant.
La contrepartie, c'est que ce sera peut-être plus difficile à lire.
Ça sera peut-être plus difficile à lire, incontestablement. Mais ça n'en aura que plus de sel et que pour les observateurs, heures, il y aura peut-être une certaine excitation à voir ça. Ce qui est quand même très très net, c'est qu'on voit bien que les conservateurs qui tenaient, on va dire, les rênes du Parlement, et, mais aussi un peu à la Commission, oui, et d'une certaine façon pesaient lourd au Conseil de l'Europe, sont dans une situation qui n'est plus du tout comparable. Donc ça, c'est quand même un point extrêmement important. Idem pour les sociaux-démocrates. C'est-à-dire que ce sont quand même les deux grands partis qui portent depuis la création du Parlement toute la vie parlementaire, mais au-delà même, l'organisation et le contrôle de cette organisation de l'Europe se trouvent aujourd'hui, d'une certaine façon, désavoués.
Il y a un vrai changement. Stéphane Soumsta, quelle lecture ?
Moi, ce qui me frappe, c'est que, au vu des résultats de l'affaiblissement de ces deux principaux groupes et de la progression des Verts, des écologistes et des libéraux, cette reconfiguration du Parlement européen pourrait représenter un avantage pour les intérêts français, en tout cas pour les députés français. Parce que quand on regarde, il n'y aura que 5 ou 6 députés socialistes. Donc, au sein du groupe social-démocrate, ça va peser quasiment rien. Il n'y aura que 8 députés républicains au sein du groupe PPE. En revanche, il y aura une douzaine de députés écologiste vert, ouais, au sein d'un groupe de 70, c'est considérable, ouais, et il y aura plus d'une vingtaine, 22 députés macronistes au sein du groupe LDE.
Pascal Canfin, ce matin, sur France Inter, disait qu'on le veuille ou non, on est pivot.
Absolument, et ça pourrait changer par rapport à ce que l'on entendait ces dernières années, où on parlait effectivement des intérêts allemands, des Allemands qui étaient plus présents, qui pratiquaient moins l'abstentionnisme, à Strasbourg ou à Bruxelles, et qui étaient massivement représentés dans ces deux principaux groupes, social-démocrate et PPE. Donc là, les choses pourraient changer, et les Français, les députés français pourrait jouer un rôle plus important que lors des 5 dernières années.
Êtes-vous de ceux, Stéphane Soumsta, qui voit une percée populiste ou une percée plutôt contenue ? De quel côté du verre êtes-vous ?
C'est une progression qui n'est pas la progression dont on avait annoncé une ampleur énorme. Oui, c'est une progression. Il ne faut pas oublier une chose aussi. Pour l'instant, siègent les députés britanniques eurosceptiques, des députés, oui, pro-Brexit, et ces gens-là pourraient très très bien quitter très rapidement le Parlement européen, ce qui tendrait encore plus à limiter la progression des eurosceptiques, des progressistes, des populistes.
Ouais. Béatrice Gibelin, encore une question avant de passer à la France. C'est un Parlement, au fond, moins libéral, oui, dans le sens que les populistes sont pour un certain repli, et les écologistes vont dire halte au libre-échange, il y a des règles écolo. Parlement moins libéral qu'auparavant.
Je pense incontestablement, et je pense que les centristes vont savoir en tenir compte aussi, parce qu'on pourrait dire, mais eux sont très libéraux, donc ils vont jouer un rôle pivot. Mais si on regarde la composition de la liste de Renaissance, oui, celle de
la liste macroniste.
Oui. On voit bien qu'il y a des écoles. Pascal Canfin, il est mis dans une position, il est le deuxième. Ça prouve bien que la sensibilité écologiste, elle va être là, et qu'on n'est pas parti pour un libéralisme à tout craint.
Échevelé.
Donc c'est effectivement, moi je suis tout à fait d'accord, il y a une carte à jouer pour les Français s'ils investissent à plein le Parlement et les habitudes de négociation en fonction des thèmes au sein du Parlement. C'est-à-dire qu'il y a une culture parlementaire en Europe de la discussion, de la négociation, du consensus auquel nos élus français
sont pas
quand
les
même
plus
moins
habitués.
Mais nous avons aussi beaucoup de nouveaux députés, donc ils peuvent peut-être aussi
Se
mettre au travail.
Allez, la France, on y vient avec d'abord cette donnée, la plus forte ou moins faible participation en 25 ans à des élections européennes, 50,12%, elle était de 42% cette participation il y a 5 ans, donc elle est globalement en hausse en Europe également. En France, pourquoi les gens qui hésitaient sont finalement allés voter ? Quelques échos à Caen.
On est européen, on tient absolument à conserver l'Europe, et puis ma foi que ça se passe pour le mieux.
Moi j'ai des petits-enfants, eux, l'Europe, ça compte, ils votent.
C'est un devoir de citoyen, et pour moi, si j'ai le droit de vote, en plus en tant que femme, bah, il faut y aller. Une voix est une voix, ça compte, et on est même venu en famille avec nos enfants, même s'ils sont en bas âge, on a emmené toute la famille, voilà.
J'ai voté avec une émotion particulière, il ne faut pas oublier notre histoire, évidemment. Ici, nous sommes une région très marquée par l'obscurantisme, si je puis dire, et la liberté, hein, la liberté et la démocratie, donc aujourd'hui, c'était un jour à ne pas manquer.
Ouais, la Normandie et les plages du débarquement, Stéphane Soumsta, à qui s'est mobilisé et à qui a profité ce surcroît de participation des derniers jours ?
Très clairement, évidemment, au Rassemblement National, puisque c'est une victoire pour lui. Il arrive en tête, il y a cette portée symbolique, même si la différence avec la liste de Nathalie Loiseau est assez étriquée, 0,9%, mais malgré tout, il y a cette portée symbolique, d'autant plus que la liste Rassemblement National arrive en tête, en dépit de l'investissement personnel du président de la République. Donc c'est incontestablement le principal vainqueur de ce scrutin. Mais ensuite, quand on regarde dans le détail, on peut dire qu'il y a également le vote utile dans ces différentes facettes qu'il a emporté, le vote utile en faveur du Front National, mais aussi du Rassemblement National, mais aussi le vote utile en faveur de La République En Marche. C'est une déception pour le président de la République, mais ce n'est pas un désastre électoral, bien au contraire pour La République En Marche. Là encore, il est au coude à coude avec le premier. Il recule. La liste de Nathalie Loiseau garde quasiment le potentiel électoral d'Emmanuel Macron au premier tour de l'élection présidentielle. C'était 24%, et ça, c'est important. Il faut quand même se souvenir d'une chose. Il y a 5 ans, avait eu lieu les élections européennes. François Hollande était président de la République depuis 2 ans et le Parti Socialiste avait subi une déroute électorale, 14%. On voit bien là, cette année, qu'on n'est pas du tout dans le même contexte. Donc c'est une liste République En Marche qui résiste et qui résiste particulièrement bien.
RN à 23,3%, République En Marche 22,4%. Nous allons dans une ville qui a massivement voté Rassemblement National, c'est Calais. 41,5% des suffrages, 4000 voix de plus qu'en 2014 où ils étaient déjà très hauts. Rémi Brancato est allé dans le quartier de Beaumarais. Ici, dans certains bureaux, le RN dépasse les 60%.
Devant l'école Georges Andric, Hélène conduit sa fille. Ici, dans les deux bureaux de vote, le Rassemblement National est en tête avec 63 et 55% des voix.
C'est parfait, c'est ce que je voulais.
Hélène, mère au foyer, vote depuis 20 ans pour le parti de Marine Le Pen.
De toute façon, ici, pratiquement tout le monde vit du RSA, donc peut-être avoir du boulot ou un petit, même des petits trucs comme ça, ce serait bien.
Ça va bouger peut-être.
À côté d'elle, Émilie, au chômage, seule, avec 2 enfants, a aussi voté pour la liste de Jordan Bardella.
Parce que M. Macron, c'est beaucoup, beaucoup pour les riches. Il oublie beaucoup les mamans solo. Quand vous voyez le prix de l'essence, tout ça, c'est de pire en pire. Alors, tout ce que je voudrais, c'est qu'on a un peu plus d'aide.
Plus que la présence de migrants, les électeurs du RN pointent leurs difficultés sociales. À la fenêtre de son appartement, Corinne, au chômage, est en colère.
Le président, comme on a l'autre, ça fait beaucoup de promesses, mais ça bouge pas beaucoup. Comme il disait, il faut traverser le trottoir en face et on a du boulot. On aimerait bien savoir où c'est qu'il l'a trouvé.
Car ce que tous mettent en avant, c'est le rejet de la politique d'Emmanuel Macron.
J'ai voté le RN pour dire de claquer Macron, c'est tout.
Mais devant son café, Serge, militaire retraité, ne se fait pas d'illusions.
Le jour où ils arrivent au pouvoir, on ne change pas grand-chose.
Le RN, c'est pareil.
Ça sera pareil.
La télé du bistrot est branchée sur une chaîne de sport dans ce quartier de Beaumarais. L'abstention est bien plus forte qu'ailleurs, 60 à 70%.
Béatrice Gibelin, est-on plus qu'avant dans un duo Rassemblement National Macron ou Majorité En Marche?
Oui, incontestablement. On voit bien que, qu'on le veuille ou non, le duel oui. de ce duo est installé. Il est déjà le résultat en 2017 et l'éclatement, parce que on se réjouit d'une certaine façon que le PS soit à 6,2 ou 3, parce que comme ça il a des élus, on pensait même qu'il n'en aurait pas. On voit bien qu'on a une gauche qui est complètement éclatée, qui a énormément de mal à se réorganiser et à s'associer. Le nombre de listes à gauche en était quand même la preuve patente, bien, et qu'à droite, la situation est tout aussi dramatique, incontestablement.
On commence à avoir des détails géographiques. On a de plus en plus de France. Je m'adresse aussi à Stéphane Soubstag, une France des métropoles qui voterait En Marche ou Écolo, et une France plus loin des métropoles qui voterait RN. Cette fracture-là existe un peu plus.
Incontestablement, dans les métropoles, le niveau, on va dire, de formation, la pyramide aussi des âges, va faire que effectivement, comme au présidentiel, on voit bien que c'est là qu'il y a les voix pour La République En Marche. Oui. Bien, incontestablement. Ceci étant, il faut faire attention sur les cartes, parce que quand on met une carte en disant ce qui est arrivé en tête, on masque tout ce qui est arrivé en deuxième ou en troisième. Donc on a une lecture particulièrement binaire de cette situation. C'est vrai que le Front National, et vous l'avez rappelé, Rassemblement National, arrive très fortement en tête dans énormément de départements, 80 vous avez dit. Mmh. Ça veut dire énormément de communes. Donc quand on regarde la carte, on a l'impression qu'effectivement toute
la France est raide,
a basculé, ce qui n'est pas vrai. Parce qu'on ne donne à voir que le premier, mais il y a le deuxième, le troisième, par exemple. Les Verts, ils apparaissent pas sur cette carte. De façon, il faut vraiment le regarder à la loupe.
Alors
si
que
vous
le
voulez.
Scrutin marque une Alors progression.
Alors que le scrutin marque une progression.
Stéphane Soubstag là-dessus. Est-ce que le RN gagne de nouveaux bastions, des nouvelles régions, des villes ou d'un type d'électeurs nouveaux?
Oui, très, très clairement. Le Rassemblement National là, est en phase de, on pourrait appeler ça, d'une banalisation sociologique très longue. longtemps, le Front National a été fort dans des fiefs, territorialement. Il naît dans le sud-est, il se développe dans l'est de la France, puis les Hauts-de-France. Aujourd'hui, géographiquement, même s'il n'est pas la formation politique dominante, sur tout l'arc atlantique, il réalise des scores importants, sous sa moyenne nationale, mais des scores qui sont tout à fait honorables. Il n'y a plus d'endroit où il n'obtenait que des scores de témoignage, parfois des scores ridicules. Je me souviens, il y a 20 ans, le Front National faisait des scores qu'on qualifierait aujourd'hui de ridicules en Bretagne. Ce n'est plus le cas. On l'avait déjà vu depuis les élections régionales de 2015, on l'a vu à la présidentielle, et tout ça est vérifié cette année. Donc il est, pour être un grand parti, pour prétendre prendre le pouvoir un jour, il faut être fort partout, il faut cocher toutes les cases. Et petit à petit, il obtient des scores totalement corrects partout. Il n'y a plus de terre de mission aujourd'hui pour le Front National. Alors, maintenant, d'un point de vue sociologique, très longtemps, c'est un peu la même chose, le Front National puis le Rassemblement National ont révulsé les jeunes, les urbains, les cadres supérieurs. Aujourd'hui, quand on regarde la sociologie du vote de hier, on voit bien que, là encore, même si c'est sous sa moyenne nationale de 23%, il obtient des scores tout à fait corrects auprès des plus jeunes, des moins de 25 ans, il obtient des scores tout à fait corrects auprès des cadres supérieurs. Et ça, c'est ce que j'appelle cette normalisation, cette banalisation sociologique qui fait que, petit à petit, il ressemble à un parti classique qui est fort partout.
Alors vous parliez de la Bretagne, nous allons dans une ville qui avait voté à 88% Macron au second tour de la présidentielle en 2017, c'est Rennes. 26% des suffrages hier pour La République En Marche, devant les écolos qui sont à 24%. L'Ouest reste une région, on le disait, où on vote moins RN qu'ailleurs. À Rennes, le Rassemblement National est quatrième, 8% des suffrages. Lendemain de vote, donc, dans cette ville. Reportage France Inter, Mathilde Dehumy.
Jean-Christophe a voté pour le parti présidentiel comme 15 000 Rennais.
C'était un vote de soutien, d'encouragement et en même temps l'idée d'avoir une force représentative et pouvant agir au niveau de l'Europe. Ce n'est pas qu'un vote sanction nationale comme certains disent. Quand vous êtes un parti au pouvoir, vous caracolez rarement en tête, surtout après plus de 2 ans d'exercice du pouvoir.
Ma fille de 22 ans, raconte Jean-Christophe, elle a voté Europe Écologie Les Verts à Rennes, déjà très écolo. Seules 900 voix, c'est par En Marche des Verts, ce qui n'étonne pas Evelyne.
Ça va finir par prendre de l'ampleur et j'espère que ça va continuer. Un vote vert peut changer aussi la politique, le système économique. Ça prend du temps, mais on y arrive.
Dans ce bastion de la gauche, Place Publique Les Socialistes affiche l'un de ses meilleurs scores pour une grande ville, presque 11%, mais Jeff regrette sa stratégie.
Je pensais que la liste des Verts n'allait pas faire ce score-là, donc j'ai préféré faire un vote utile, social, à gauche. Je regrette un peu. Si j'avais su, j'aurais apporté un peu plus ma pierre à l'édifice.
Un vote écolo qui pèsera dans le combat à gauche pour les municipales. Rennes, Mathilde Dehémy, France Inter.
Alors pour la majorité, moins d'un point d'écart donc avec le Rassemblement National, ce n'est pas énorme, mais vu l'implication d'Emmanuel Macron dans la campagne, c'est tout de même une défaite pour le président de la République. Bonjour Cyril Gardiani.
Bonjour.
Cela dit, pas de changement majeur à attendre et Édouard Philippe est conforté.
Sa déclaration hier soir était claire. À pied d'œuvre, dit-il, pour poursuivre le projet du président et de la majorité, eh bien il restera à Matignon pour l'instant. Il faut dire que le vote d'hier ne peut que le conforter. La liste Renaissance a puisé chez les LR l'ancien parti du Premier ministre. Néanmoins, cette deuxième place a déçu le président de la République qui n'a pas l'habitude de la défaite. Ça ne peut que lui faire du bien, relativise un de ses amis. Un des principaux enseignements de ce scrutin, eh bien, c'est la bipolarisation de la vie politique teintée de vert. Et c'est peut-être pour cette raison qu'en ce moment à l'Élysée, Emmanuel Macron reçoit Édouard Philippe et les forces politiques de la REM, François Bayrou, Stanislas Guérini et Pascal Canfin, qui compte bien peser de tout son poids pour, je cite, « écologiser le discours de la majorité ». Dans le viseur, il y a maintenant les municipales. D'ailleurs, il est intéressant de constater que les fameux maires Macron compatibles, ceux susceptibles ou en passe, il y a peu de basculer dans le camp macronien. Jean-Luc Moudenc à Toulouse, Arnaud Robinet à Reims, Christian Estrosi à Nice, qui avait fait le choix de soutenir finalement François-Xavier Bellamy. Eh bien, ces trois ont fait au maximum 11% dans leur ville. De quoi s'en mordre les doigts.
Merci Cyril Gardiani, invité de France Inter ce matin. Yannick Jadot, la tête de liste écolo, 13,5%. C'est un réel succès, c'est l'un des faits marquants de cette élection. Écoutons-le.
C'était l'objectif qu'on s'était fixé, hein. Et c'est un pari atteint et un immense plaisir finalement de voir que Le pari que nous avions fait, c'est une élection européenne, nous allons parler d'Europe. On va pas tricher avec les électeurs. Et puis nous sommes écologistes, nous allons parler d'écologie. Et puis troisièmement, il y a une forme de lassitude extrême dans l'opinion publique de voter contre. Et ben nous, on va jouer le vote pour. Donc il nous faut construire une alternative crédible pour conquérir le pouvoir. Pour conquérir le pouvoir et l'exercer.
Stéphane Zumsteg, sait-on chez Ipsos qui a voté écolo? Qu'est-ce qu'on peut dire là quelques heures après le vote?
C'est essentiellement les jeunes, oui. On va dire les moins de 25 ans, mais même les moins de 35 ans, oui. Qui ont voté massivement pour les écologistes. Alors c'est pas une nouveauté, hein, c'est toujours une classe d'âge qui est fortement sensible aux problématiques environnementales. Mais cette année, c'est particulièrement spectaculaire. Il y a 25% des moins de 35 ans qui ont voté pour une liste qui, au total, n'obtient que 13,5%. Donc on voit bien cette surreprésentation, les jeunes, les urbains, des gens qui ont un niveau d'études relativement élevé et parfois, pour ceux qui travaillent déjà, un niveau de revenu aisé. C'est un vote de centre-gauche, oui. Qui ressemble énormément finalement à ce vote de gauche qui a permis à Emmanuel Macron de virer en tête au premier tour de l'élection présidentielle il y a 2 ans.
Ces jeunes-là n'auraient pas voté ? Il y a beaucoup de gens qui s'apprêtaient à ne pas voter et qui finalement ont voté écolo. On mesure ça ou pas?
Oui, ça fait partie des différents indices qui nous permettent de comprendre ce sursaut de participation qu'on avait mesuré toute une partie de la semaine, mais qui a été encore plus fort que prévu. Il y a l'appel au vote utile du Rassemblement national et de La République en marche qui ont joué un rôle. Ouais. Mais il y a aussi tout ce qui s'est dit les derniers jours précédant le scrutin autour de l'urgence climatique, la manifestation pour le climat, qui ont joué un rôle très important et qui ont permis justement, en tout cas, inciter des jeunes traditionnellement abstentionnistes à se mobiliser davantage que d'habitude.
Alors, il y a deux mouvements en crise plus ou moins ouverte ce matin en France. Les Républicains et la France Insoumise. Chez les Républicains, on peut parler de crise ouverte. 8,5% des voix pour la liste de François-Xavier Bellamy. La droite traverse une crise profonde. Tout est à reconstruire, dit-il. Laurent Wauquiez est dans le viseur. Lui qui a porté une ligne très conservatrice depuis son élection et qui a porté le candidat. Déclaration de Valérie Pécresse ce matin. Je démissionne si j'étais lui. Le secrétaire général délégué des LR, Geoffroy Didier, était l'invité ce matin de France Inter. La droite, dit-il, doit faire sa révolution mentale et idéologique, sinon elle mourra.
Comment se fait-il aujourd'hui qu'il n'y ait aucun jeune qui vote à droite? Comment se fait-il aujourd'hui que les fonctionnaires ne votent pas à droite? Parce qu'il faut voir le discours qu'on leur a porté durant la campagne présidentielle de François Fillon. On a expliqué à 5,5 millions de nos concitoyens que le seul projet que nous avions pour eux, c'est de supprimer 500 000 postes, sans d'ailleurs jamais leur dire lesquels. Quel est le discours aujourd'hui que la droite porte aux urbains? Donc je pense que la droite doit se déringardiser d'urgence et doit notamment abandonner son conservatisme sociétal.
Voilà, une pièce au dossier et au débat. Bonjour Yael Goz.
Bonjour Bruno.
Chef du service politique de France Inter, la droite vit un moment zéro.
Moi, c'est sa survie même qui est en jeu, c'est ce que me confiait tout à l'heure un ancien ministre sarkozyste, parce que pour l'aile libérale, il y a un sas d'accueil à La République en marche, et pour l'aile droite anti-immigration, il y a le RN de Marine Le Pen. Alors à quoi sert-on? Quelle est notre raison d'être, se demande ce ministre, cet ancien ministre. La poutre a sérieusement travaillé, et les Républicains effarés à leur propre effondrement, comme les socialistes il y a 2 ans. 24% des voix, rendez-vous compte, seulement dans le 16e arrondissement de Paris. 24%, là où la droite Trocadéro avait voté à plus de 58% en 2017 pour François Fillon. Le vote des seniors s'est clairement déporté vers La République En Marche. La tête du patron maintenant est-elle en jeu? Non, il poursuit son mandat. C'est la ligne qu'il faut redéfinir, se défend l'entourage de Laurent Wauquiez, et cette introspection commence ce soir à 18h au siège du parti avec la convocation du bureau politique. Sauf qu'en interne, Bruno, le procès a déjà commencé. Ce n'est pas que sa ligne rétrécie qui pose problème, ce sont aussi ses méthodes. Là, c'est un proche de Valérie Pécresse qui accuse. S'il reste la tête DLR, il sera assigné à résidence, personne n'en voudra sur ses affiches dans ses meetings pour les municipales. C'est oublié un peu vite que tout le monde a fait bloc pendant la campagne autour d'un Bellamy unanimement salué lors du dernier gros meeting parisien. Bellamy a bien produit un effet, mais boomerang.
Bonjour Laurence Perron.
Bonjour.
Il y a une autre formation qui est en crise, mais là, la crise couve, elle est plus discrète. C'est la France Insoumise, 6,3% des voix. On est très très loin des près de 20% de Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle. Donc la crise, elle éclate pas aussi nettement que chez les Républicains, mais ça va pas fort ce matin.
Ça va pas fort. Alors c'est vrai qu'en même temps, il y a, en 2014, ils étaient à peu près le même score. Mais effectivement, la crise couve, et c'est Clémentine Autain, députée LFI, qui a ouvert le débat hier soir à minuit moins 2 sur TF1.
Il faut se retrousser les manches et être capable, je termine juste là-dessus, de réfléchir à la stratégie. Il faut sans doute un profil plus rassembleur que clivant, un profil qui permette de faire vivre le pluralisme pour faire une force à vocation majoritaire et aussi une force qui charrie davantage, qui travaille davantage du côté de l'espérance que du côté de la haine.
Alors moins clivant, un profil plus rassembleur, c'est une critique à mots à peine couverts de l'homme qui incarne aujourd'hui la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon. Alors plus que sa verticalité, son autoritarisme, ça ce sont plutôt les mots qu'emploient les partis concurrents de la France insoumise. C'est la stratégie de Jean-Luc Mélenchon qui est aujourd'hui remise en question, celle qu'il conduit depuis 2017, notamment le flou entretenu sur le plan B, la sortie ou non des traités, sur la politique envers les migrants, cette espèce de chasse, on l'a dit peut-être, à l'électorat du Front National, sans compter sur la séquence perquisition qui a vraiment plombé l'électorat plus social-démocrate de la France insoumise, qui repartit comme un seul homme sur ses anciennes terres de prédilection, à savoir l'écologie. Éric Coquerel, député insoumis, proche de Jean-Luc Mélenchon, lui ne croit pas à une rébellion qui serait durable.
On va avoir des discussions, bien sûr, parce qu'on est un mouvement et qu'il faut qu'on réfléchisse comment maintenant on rebondit. Parce qu'il y a une chose qui est sûre, c'est que je suis persuadé que notre espace politique, lui, s'est pas évanoui. Il existe dans le pays, il est là. Et toute la question, c'est de savoir maintenant comment on le reconstruit pour réellement s'opposer à Emmanuel Macron. Parce que j'ai quand même entendu hier Europe Écologie être fort peu opposant à Emmanuel Macron et même envisager des alliances avec lui au niveau européen.
Alors contacté par nous-mêmes, François Ruffin nous souhaite bon courage et bon boulot. Manon Brielle, elle enchaîne réunion sur réunion. Elle nous fait savoir que maintenant, l'important, c'est la bataille au Parlement européen.
Stéphane Zumstag, une dernière question avant de vous libérer. Béatrice Gibelin reste avec nous jusqu'à 14h. En quoi le paysage politique est-il différent du lendemain de la présidentielle? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui est la même chose?
Peu de choses ont changé. C'est compliqué de répondre à votre question parce que finalement, ok, il y a un ordre d'arrivée qui est un peu différent de celui du premier tour de l'élection présidentielle il y a 2 ans. Mais quand on regarde cet affaiblissement, enfin, le Parti socialiste qui est toujours moribond comme il y a 2 ans et cette grande surprise, ce désastre électoral pour la droite républicaine, on a envie de se dire que peu de choses ont changé, qu'on a un duopole qui s'est durablement installé. Il s'était installé, il a été créé il y a 2 ans, il est toujours en place cette année. 45% c'est le saut total obtenu par ces deux principales forces. On a du mal à imaginer ce qui pourrait évoluer dans l'année qui vient ou dans les 2 années qui viennent. Il y a des élections qui vont venir, mais là encore le match de la prochaine élection présidentielle, on a l'impression qu'il est déjà, connu en fait.
L'édition spéciale européenne reprend dans quelques minutes, le temps de vous donner de quelques autres titres de l'actualité et notamment ce titre majeur, le mariage annoncé entre d'un côté Renault et Nissan et de l'autre Chrysler et Fiat. Ce mariage va être examiné avec bienveillance par Renault. En quoi consiste-t-il, Laurent Kramer ?
Un mariage industriel hors norme et à 2 étages. Avec cette proposition de fusion à 50-50, Fiat Chrysler et Renault deviendraient le numéro 3 mondial, regroupant sous un même toit des marques aussi différentes que Maserati, Jeep, Alfa Romeo, Dacia, Lada et l'ensemble des marques Renault et Fiat, le tout pour 170 milliards d'euros de chiffre d'affaires. L'héritier de la famille Agnelli et de la maison Fiat pourrait prendre la tête avec Jean-Dominique Senard, aujourd'hui président de Renault, de ce nouveau géant de l'automobile. Mais Renault est pour ainsi dire déjà marié à Nissan et Mitsubishi. Aujourd'hui, au pied du mur devant cette proposition de ménage à 3 ou à 4, si le japonais Nissan devait lui aussi accepter de monter aux côtés de Renault dans ce nouvel ensemble industriel, le mariage donnerait alors naissance au nouveau numéro 1 mondial de l'automobile rayonnant des États-Unis en Europe jusqu'à la Chine, numéro 1 très loin devant les groupes Volkswagen et Toyota.
Bonjour Gaëtan Tout le Monde.
Bonjour.
Analyste automobile à la Deutsche Bank. Quel est l'intérêt économique de ce rapprochement ?
L'intérêt économique est assez simple. Cette industrie doit faire face à des enjeux énormes au cours des prochaines années. Le premier enjeu, c'est les émissions de CO2, où il y a quand même des objectifs assez agressifs à horizon 2022, puis 2025, puis 2030. Donc ça, c'est un premier sujet. Sachant que si vous loupez vos objectifs, vous allez avoir des amendes relativement élevées à payer à Bruxelles. Ouais. Donc il y a quand même un objectif très important dessus. Après, il y a les nouvelles technologies, véhicules autonomes et autres. Et donc, en théorie, plus on est gros, plus on arrive à mieux absorber des frais de développement. Ouais. Et donc, théoriquement, on s'en sort mieux que les petits. D'où probablement l'idée de ce rapprochement. Bon, en plus, les gens de FCA, de Fiat, ont annoncé l'ampleur des synergies. Alors, le résultat d'exploitation combiné des deux groupes, c'est à peu près 10 milliards, et les synergies sont chiffrées à 5 milliards à horizon 6 prochaines années. Donc, relativement rapidement et relativement conséquente.
Qui prendra la main? Qui va diriger?
J'en sais rien. Je pense, je pense que Jean-Dominique Senard, est chez Renault depuis peu de temps. Je pense que son mandat n'est pas nécessairement très long. Probablement, dans une période intermédiaire, c'est lui qui prendra le rôle de leadership.
Est-ce que le poids de l'État, du coup, va se diluer et l'État aura beaucoup moins d'influence chez Renault?
Alors, l'État va se diluer de deux façons. La première façon, c'est que ils ont 15% du capital de Renault et comme le nombre d'actions va doubler, ils vont se retrouver avec la moitié. Et la deuxième chose, c'est qu'a priori, les droits de vote double disparaissent. Donc leur poids va encore diminuer. Maintenant, je pense que quand on regarde le poids de l'État, son influence a été d'une certaine façon relativement limitée ces 10 ou 15 dernières années sur la gestion quotidienne de Renault. Mais vu de l'extérieur, l'image d'un gouvernement dans le capital d'une société industrielle n'est pas toujours très bien perçue.
Merci beaucoup Gaëtan Tout le Monde d'avoir répondu à nos questions sur ce mariage annoncé, pas encore fait, hein, entre Renault et Fiat, qui sera l'événement numéro 1 de ce printemps dans l'automobile. Autre titre de l'actualité avant de reprendre notre spécial consacré aux élections européennes, c'est après vendredi soir, 17h30, ce colis piégé qui a explosé rue Victor Hugo à Lyon devant une boulangerie dans le centre de la ville. 13 personnes ont été légèrement blessées, dont une petite fille de 10 ans. Laurélie, qui arrive trois gardes à vue ce matin.
Oui, alors la première personne en garde à vue est celle qui est soupçonnée d'être venue à vélo vendredi déposer le sac en papier Kraft de la rue Victor Hugo. Il s'agit d'un homme de 24 ans présenté comme étudiant en informatique de nationalité algérienne et inconnu des services de police et de renseignement. D'après le maire de Lyon et ancien ministre de l'Intérieur Gérard Collomb, les enquêteurs ont retrouvé sa trace hier grâce à un visionnage minutieux des images de vidéosurveillance de la ville. Ils n'ont pas voulu l'interpeller chez lui à Oullins, au sud de Lyon, par peur de tomber sur des explosifs. Après une filature, c'est donc à sa descente de bus que le suspect a été arrêté sans violence par la police à 10h ce matin. Ça s'est passé boulevard Yves Farge dans le 7e arrondissement de Lyon sur la rive gauche. Ses motivations restent à cette heure inconnues, insiste une source proche du dossier. Deux autres personnes ont également été placées en garde à vue. Sa mère, ainsi qu'un lycéen majeur également membre de la famille. La sœur est également entendue par la police en audition libre cette fois. À noter enfin qu'une perquisition a lieu en ce moment à Oullins.
Merci Laurélie Carive. On ira à Roland-Garros tout à l'heure avec Fabrice Abgral pour l'actualité plus légère. Je vous donne juste deux résultats. La qualification du français Corentin Moutet ce matin et l'élimination de Caroline Wozniacki et de Pauline Parmentier chez les filles. Il est 13h36. Vous écoutez une édition spéciale concernant consacrée aux européennes de la rédaction de France Inter.
France Inter, élections européennes 2019, Bruno Duvy.
Toujours avec nous la géographe Béatrice Gibelin, directrice de la revue Hérodote, et nous a rejoint Jérôme Fourquet. Bonjour Jérôme Fourquet.
Bonjour.
L'homme qui a théorisé la transformation de la France en un archipel, directeur du département opinion de l'Institut IFOP et donc auteur de ce livre « L'archipel français au seuil ». Commençons par les derniers développements avec vous, Laurence Perron. Vous êtes resté autour de la table. Cette information que vous me donnez là, sur un petit bout de papier, Benoît Hamon va se mettre en retrait.
Oui, il va se mettre en retrait. Alors est-ce qu'il nous fait une véritable Jospin, comme en 2002, oui, au moment où le candidat du Parti Socialiste battu sèchement et se retrouvant face à Marine, laissant une situation politique où Marine Le Pen du coup était en position peut-être, ouais, de l'emporter. Voilà, donc Benoît Hamon va se mettre en retrait, il ne va plus parler à la presse, donc là c'est plus la peine de l'appeler. Voilà, c'est ce que son bras droit, Guillaume Ballas, excellent eurodéputé, ouais, qui a fait un vrai travail au Parlement européen, mais qui n'est pas élu. Donc Benoît Hamon...
Il avait dû qu'il en tirerait les conséquences.
Il avait dit qu'il en tirerait, exactement, et donc il va se mettre en retrait. Je pense que ça veut dire qu'il se retire de la vie politique, ouais, et il va se consacrer à sa société de conseil qu'il a fondée il n'y a pas très longtemps et sans doute aussi à ses cours qu'il donnait à l'université de Lille. Mais effectivement, Benoît Hamon, pour le moment, c'est terminé.
Merci Laurence Perron pour ce dernier développement après l'élection hier. Allez, nous parlons du Rassemblement National qui est donc arrivé en tête hier, 23,3% des suffrages. Il y a des bémols tout de même à mettre. Alors certes, Marine Le Pen présente sa formation comme celle de la future alternance, prenant date pour la prochaine présidentielle. Mais le RN perd un petit point par rapport aux européennes de 2014. Alors au siège du parti à Nanterre, le bureau exécutif est réuni depuis un peu plus d'une heure. En interne, Maxence Lambrecq, vous êtes à Nanterre, on ne fait pas triomphalisme, hein.
Et non, en effet, puisque ce score ne change pas la donne, ne fait pas tomber le gouvernement, le RN ne fait que conforter son statut de force d'opposition. C'est la preuve que le socle de Marine Le Pen est bel et bien solide et qu'il s'élargit encore un peu avec 18% d'électeurs de François Fillon qui ont voté RN hier. Des électeurs que le parti va maintenant chercher à garder dans la perspective des municipales l'an prochain. En première ligne alors, il y aura Louis Alliot, candidat à Perpignan, qui a vu hier soir sur place la droite s'effondrer.
Dans une ville qui est tenue par un maire LR, une majorité LR, ils ont fait 8%. Tout le littoral, d'ailleurs, pour les LR, ils sont en dessous de 10%. Donc il y a un effondrement, il faut analyser cet effondrement. Il y a des gens de LR qui refusent les oukases de Mme Pécresse ou de M. Wauquiez. Ils veulent localement travailler avec nous, ils ne comprennent pas pourquoi on nous tient à l'écart. Et c'est maintenant que ça va se régler.
Et c'est en effet maintenant que le RN va essayer de convaincre ses élus LR de les rejoindre, de mener des listes communes en mars prochain. Le plan de bataille commence à être élaboré en ce moment lors du bureau exécutif du parti. Et le lancement officiel de la campagne municipale, eh bien ce sera déjà dans 3 semaines avec un conseil national à La Rochelle. D'ici là, Marine Le Pen va rejoindre Bruxelles demain soir pour essayer de consolider son alliance européenne. Ils espèrent former le 4e groupe du Parlement européen alors qu'ils avaient le plus petit, le 8e. Nicolas Bay, le président de ce groupe, parle de 73 sièges déjà acquis. Reste à s'unir avec les Espagnols de Vox qui ont hier soir rassemblé 7% des voix et auront 3 sièges à Strasbourg.
Jérôme Fourquet, est-ce que l'archipélisation de la France, c'est difficile à dire, est un peu plus forte après ce scrutin?
En plus forte, je suis pas convaincu. En tout cas, ce scrutin en porte la trace et en est une des illustrations. On voit bien que le vieux clivage gauche-droite et en tout cas les deux grands partis qui l'incarnaient, le PS et les Républicains, sont aujourd'hui vraiment réduits à la portion congrue. On voit un Rassemblement National qui ne progresse pas mais qui s'enracine à un très haut niveau et une République En Marche qui, elle, commence à se structurer dans le paysage. Donc on a effectivement tous les symptômes d'une nouvelle ère politique avec... comme reprendre l'expression de Édouard Philippe qui avait à un moment parlé dans un meeting selon d'une poutre qui travaillait encore, et bien on voit que les choses sont encore en évolution. Si la République en marche fait le même score qu'Emmanuel Macron, c'est au prix d'un chassé-croisé, c'est-à-dire qu'il y a toute une partie de l'électorat de centre-gauche qui a quitté Emmanuel Macron, qui a voté pour la liste de Yannick Jadot, la liste écologiste, et ces départs ont été remplacés, compensés par l'arrivée d'une partie de l'électorat filloniste, à peu près un quart de l'électorat de François Fillon qui a voté aux européennes, a voté en faveur de la République En Marche, qui pose une difficulté existentielle maintenant à la droite, qui connaît le même sort que celui qu'a connu le PS il y a 2 ans.
La droite, Béatrice Giblin, on n'a pas eu le temps d'en parler dans la première partie de cette édition spéciale. Comment analysez-vous cet effondrement de la droite? Elle est désormais sur un secteur trop restreint.
Une erreur de stratégie de son leader, Wauquiez, qui a pris une orientation très conservatrice en expliquant que c'était comme ça qu'il allait remobiliser son électorat, sans analyser que son électorat n'était pas celui des années 60 ou des années 70, mais c'était l'électorat des années 2000-2010, avec une société qui avait évolué, même si ça avait mobilisé au moment du mariage pour tous. Personne n'a remis maintenant en cause le mariage pour tous. Donc il était en décalage, à mon avis, important, avec une partie de son électorat qui n'a pas voulu le suivre sur ces clivages sociétaux quand même très marqués. Oui. Ils sont allés... La République En Marche n'est pas si gênante que ça pour une partie de l'électorat de droite. Elle l'est plus pour les électeurs de gauche qui avaient suivi Emmanuel Macron. Mais pour les autres, honnêtement, il y a guerre de contradictions.
Alors, question à présent, et on va aller en reportage près de Toulouse. On va se demander comment la France des Gilets jaunes a voté. Stéphane Iglesis est allé dans une des villes où les Gilets jaunes ont été très actifs ces derniers mois. C'est Montauban. On écoute son reportage.
Les Gilets jaunes Montalbanais ne sont pas étonnés de ces résultats. Ils sont obligés de constater une bipolarisation, Rassemblement National, République En Marche. Il y a bien 2 France, explique-t-il, la France de la mondialisation heureuse et une France rurale délaissée et en perte d'identité. David, petit commerçant et gilet jaune.
Le clivage extrême droite et barrage républicain, c'est quelque chose que je vis moi depuis 30 ans, hein, j'ai 50 ans, que je trouve qu'il ne répond pas, ça ne répond pas aux attentes du quotidien des Français. Il y a eu quelques réponses qui n'ont pas marqué en profondeur un réel changement d'engagement dans la politique du gouvernement qui reste problématique pour l'ensemble des territoires ruraux. Et moi, je suis un rural.
Marie-Dominique est retraitée et veuve et elle pense déjà au futur municipal.
Pour moi, la prochaine échéance importante, c'est le municipal. À mon avis, il faut faire barrage à la République En Marche parce que on va nous mettre à terre et même on est en train de nous creuser le trou pour nous enterrer un peu plus encore.
Quant à Pascal Serrier, autre gilet jaune, il constate la montée en puissance du Rassemblement National.
Pour le Tarn-et-Garonne, on est déjà dans ce cadre aussi municipal. Le RN a toute sa place et on le voit de plus en plus où il commence à s'ancrer dans pas mal d'endroits, notamment dans tous les milieux ruraux.
Les gilets jaunes Montalbanais comptent donc bien être présents dans le débat des prochaines municipales. Montauban, Stéphanie Glaizis, France Inter.
Jérôme Fourquet, de votre point de vue, quel a été l'impact du mouvement des gilets jaunes sur ce scrutin ? Alors, sachant que les deux listes purement gilets jaunes ont fait quasiment rien.
On fait un flop, effectivement. Ouais. Donc, on voit bien que le degré de défiance vis-à-vis des institutions représentatives était très fort dans ce mouvement, puisque même les gens qui se réclamaient de ce mouvement-là n'ont pas récupéré ces suffrages. Juste pour donner un peu un ordre de grandeur, dans nos enquêtes les plus récentes, nous avons encore 13% de Français qui se considèrent comme gilets jaunes. Hein, ouais. Donc qui défilent pas forcément, qui disent mais nous sommes gilets jaunes. Ouais. Donc ça c'est une masse assez importante.
On part, cela dit, au début du mouvement de 70%.
Alors, attention, non, c'est 70% au début de soutien ou de sympathie. Soutien. Là c'est okay. D'identification.
D'accord.
13% qui disent moi j'en suis, je D'accord. suis gilet jaune, je me considère comme gilet jaune. Ces gens-là, beaucoup se sont abstenus, hein, plus que la moyenne des Français, et ceux qui sont allés voter, à 40% ont voté pour la liste du Rassemblement National. Mmh. Donc, pour répondre à votre question, je pense que beaucoup de choses étaient, comme on dirait à la bourse, étaient déjà intégrées dans les cours. Oui. C'est-à-dire qu'une partie des gens qui se sont mobilisés dans le mouvement des Gilets jaunes n'étaient pas vierges de tout d'orientation politique, et une bonne partie venait déjà du Rassemblement National. Alors c'est un mouvement qui est composite, on l'a bien vu sur le terrain, il y a aussi des gilets jaunes qui étaient plutôt de sensibilité à la France Insoumise ou d'autres sensibilités, mais une masse importante était quand même composée ou était plutôt en proximité avec le Rassemblement National. Marine Le Pen l'a senti très vite et contrairement à Jean-Luc Mélenchon, elle a géré cette crise de manière, de mon point de vue, assez à droite, c'est-à-dire en se montrant assez solidaire, mais en essayant de ne pas apparaître comme voulant récupérer le mouvement. Et donc, ça lui a plutôt été favorable. Mais au global, quand vous regardez les résultats, on n'a pas le sentiment que la France a traversé 6 mois de crise sociale d'une grande intensité. Quand vous regardez les résultats qui sont, pour le Rassemblement National, en phase avec ce qui se prévalait en 2014, et une République En Marche qui résiste quand même assez bien dans un contexte où Emmanuel Macron a été très fortement déstabilisé ces derniers mois.
Béatrice Gibelin, sur cette question.
Écoutez, moi j'ai l'impression qu'on a surévalué le poids des gilets jaunes et leur influence qu'ils pouvaient avoir sur l'évolution des rapports de force politique en France.
Ça c'est dingue, parce qu'à un moment on disait aux médias vous les avez sous-évalués, vous n'avez pas vu venir, maintenant on les a surévalués. C'est possible, hein ?
Moi je pense qu'ils ont été un peu surévalués, dans la mesure où quand même au maximum de la mobilisation, on est autour de 500 000, je crois. Le pic a été autour de 500 000. Ce qui, sur 47 millions d'électeurs, fait quand même pas beaucoup. Et la répétition de tous ces samedis ont donné l'impression de la force de ce mouvement. Mais quand on regarde bien le nombre d'électeurs qu'il représente, c'est pas tellement étonnant qu'il n'arrive pas à peser sur des élections. Je suis d'accord avec Jérôme Fourquet quand il dit que Marine Le Pen a été
plus maligne que Jean-Luc Mélenchon.
Plus maligne que Jean-Luc Mélenchon, mal à l'aise avec effectivement une partie de leurs revendications, mais néanmoins, elle ne capitalise absolument pas sur ce mouvement des Gilets jaunes. Et je dirais, d'une certaine façon, personne ne capitalise sur le mouvement des Gilets jaunes. Donc pour moi, je crois qu'on s'est un peu illusionné, si vous voulez, sur la force qu'ils pouvaient représenter et plus embêtant pour eux, je crois qu'ils s'illusionnent sur le poids qu'ils peuvent avoir et comment ils vont faire bouger les choses.
Jérôme Fourquet, un mot et puis on reprend l'analyse européenne du scrutin.
Juste, mais justement, sur peut-être une conséquence indirecte de ce mouvement est quand même le fait que face aux scènes de violence à répétition dans les centres-villes, agressions de policiers, destruction de bâtiments publics, saccage de certains nombres de commerces, ce mouvement des Gilets jaunes a peut-être favorisé aussi le basculement ou la captation par La République En Marche d'une partie de l'électorat de droite, notamment assez aisé et retraité. Hein, on rappelle qu'un quart de l'électorat filloniste a basculé sur Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, fort opportunément, a repris un projet de loi qui avait été déposé par les Républicains, la fameuse loi anti-casseurs, pour incarner un petit peu le parti de l'ordre et de la stabilité. C'est peut-être une conséquence indirecte de cette crise des Gilets jaunes, c'est d'avoir accéléré le basculement vers la République en marche d'une partie de l'électorat de la droite.
Alors, on le disait tout à l'heure, on s'est interrogé au plan européen sur plus ou moins grande poussée des populistes. En miroir de cela, on peut constater qu'il y a une bonne résistance des partis pro-Union européenne. En France, c'est le cas avec la bonne résistance de La République En Marche. Bonjour Audrey Tison.
Bonjour.
Les partis pro-Union européenne, plus globalement, ont marqué des points à cette élection, Audrey.
Oui, et ce sont les centristes et libéraux qui progressent le plus. 41 élus supplémentaires pour le groupe ALDE qui devrait obtenir 14% des sièges. Il a l'intention de se transformer pour accueillir les 21 eurodéputés de La République En Marche et espère encore draguer d'autres mouvements. Autre progression, moins attendue celle-là, celle des Verts. 17 sièges en plus, notamment grâce au record obtenu en Allemagne et au bon score en France. Il cumule 9% des sièges dans l'hémicycle. Quant aux partis dits traditionnels, ceux qui ont toujours tenu ensemble les rênes de l'Assemblée, eh bien, ils sont en recul à l'échelle de l'UE, mais limitent la casse. À ma droite, le Parti populaire européen, où siègent les Français des Républicains, il perdrait 37 eurodéputés pour occuper 24% des sièges, de quoi rester tout de même le premier groupe à Strasbourg, celui qui va grandement influencer l'agenda européen. Et à ma gauche, les socialistes et démocrates, qui reculent un peu plus, hein, 40 sièges en moins, 19% de l'hémicycle, mais grâce au gros contingent espagnol notamment, ils restent la deuxième force politique dans cette assemblée et feront forcément partie de la coalition à venir.
Allez, autre analyse européenne. Louise Baudet de la rédaction internationale est avec nous. Bonjour Louise.
Bonjour Bruno.
La bataille pour les postes a commencé, ce sera un des rôles des députés européens, la bataille notamment pour le poste de président de la Commission européenne.
Oui, il y a d'abord la présidence du Parlement, il y a ensuite la présidence du Conseil européen, la présidence de la Banque centrale européenne et donc, vous le disiez, la présidence de la Commission de Bruxelles. Quatre postes clés et l'annonce de batailles acharnées. Début des hostilités demain soir lors d'un dîner informel des 28 à Bruxelles. Emmanuel Macron, comme les autres, se prépare. Il reçoit ce soir l'Espagnol Antonio Costa avant de rencontrer demain plusieurs autres dirigeants européens. Le but, peser dans les négociations, notamment du président de la Commission, véritable Premier ministre de l'Union. Un jeu compliqué car il implique les États membres et les eurodéputés. Selon les traités, en effet, c'est au chef des État de proposer au Parlement un candidat en tenant compte du résultat des élections.
Alors, pour les conservateurs du PPE, à ce stade, c'est simple. Manfred Weber, la droite allemande, en gros, doit être celui qui succédera à Jean-Claude Juncker.
Et oui, sauf qu'il n'est pas le seul en piste et qu'il n'est peut-être plus le mieux placé. Le social-démocrate Franz Timmermans et la centriste Margrethe Vestager sont également sur les rangs. La seconde, notamment, pourrait avoir les faveurs des chefs d'État, dont certains sont très opposés à la mainmise du groupe arrivé en tête à Strasbourg sur le processus de désignation. Et cette confrontation-là se double d'un autre bras de fer, cette fois entre dirigeants européens. Pour l'heure, la chancelière allemande Angela Merkel soutient son allié bavarois, Manfred Weber. Mais Emmanuel Macron ne veut pas en entendre parler. Ils vont pourtant devoir s'entendre sur un nom qui devra aussi convenir à une majorité d'eurodéputés, date butoir fixée à la mi-août.
Béatrice Gibelin, Jérôme Fourquet, question de conclusion à chacun d'entre vous. L'une des questions de la campagne, c'était au fond, l'Europe sera-t-elle plus fragile ou plus forte après le scrutin ? Quand dites-vous, Béatrice Gibelin ?
Moi, j'ai tendance à dire plus forte, parce que je pense qu'on va être dans des débats plus ouverts, on va être dans une coalition qui va permettre de ne pas avoir ce poids très pesant quand même de l'Allemagne, qui a profité de cette situation économique extrêmement favorable. Là, Angela Merkel est quand même en situation de fragilité. Elle est en fin de mandat. Ira-t-elle d'ailleurs même jusqu'au bout? C'est une question qui peut se poser. Il y a un contexte, j'allais dire, large de préoccupation aujourd'hui d'une urgence climatique qu'on a sentie avec les Verts et le Parlement ou l'Europe ne pourra pas faire comme si c'était pas important. Et d'une certaine façon, c'est la contradiction des Allemands avec à la fois leur centrale à charbon qui pollue énormément, mais aussi 20% des électeurs qui votent pour les Verts. Ceci n'est d'ailleurs peut-être pas sans lien, oui. d'une certaine façon. Donc moi, je pense que enfin, on va aller vers un débat plus ouvert, des négociations qui vont se faire. Si on se trompe pas sur le choix du président de la Commission, et je trouve qu'une femme, ça serait peut-être pas mal, peut-être que c'est une chance pour l'Europe.
On va rester là-dessus. Jérôme Fourquet, vous avez 30 secondes.
Non, j'insisterai sur ce que vient de dire Béatrice sur l'aspect écologique. Puisque souvent on a dit voilà l'Europe mourait de ne pas avoir de projet. Là apparemment il y a une prise de conscience dans de nombreux pays. C'est un mouvement qu'on constate pas uniquement à l'échelle d'un pays mais de plusieurs pays. Et donc ça peut donner naissance ou faire un terreau pour un certain nombre de coopérations qui donneraient une consistance à l'Europe.
Merci beaucoup à tous les deux, Béatrice Giblin, la revue Hérodote, Jérôme Fourquet, l'archipel français aux éditions du Seuil. Merci de nous avoir apporté vos lumières. Évidemment, on va sur franceinter.fr pour avoir tous les détails, les chiffres, la carte des départements, notamment sur cette élection et toutes les informations de la rédac web de France Inter. Dans l'actualité encore aujourd'hui, le groupe Bolloré a signé en justice par un collectif d'associations à Nanterre. Dans la ligne de mire, les plantations d'huile de palme au Cameroun, d'une société dont Bolloré est actionnaire à 38%. Les riverains, les salariés se plaignent depuis des années des conditions de vie et de travail. En 2013, l'association Sherpa avait négocié avec Bolloré un accord innovant. Il n'a jamais été appliqué. D'où cette assignation aujourd'hui dans le but de le contraindre à respecter ses engagements, Sarah Guibaudot.
Au Cameroun, Emmanuel Elong est un planteur indépendant, président de la Synergie des paysans et riverains. Il voulait venir à Paris aujourd'hui, mais il n'a pas eu son visa. Il demande à Vincent Bolloré de tenir ses engagements, surtout au sujet de l'accaparement des terres dont il accuse la Socapalm, plus gros producteur d'huile de palme du pays.
Nous n'avons plus de terres là où cultiver la nourriture pour nourrir nos familles. Qu'il essaye de comprendre que notre environnement est pollué grâce à ses activités.
Socapalm appartient à une holding luxembourgeoise, Socfin, dont Bolloré détient 38%. Après des années de pression et de négociations, le groupe Bolloré s'était engagé sur des actions très concrètes. Rester lettre morte, regrette Marie-Laure Guislain de l'association Sherpa.
Nous avions prévu que les cheminées des usines devaient être remplacées pour la pollution de l'air mais aussi sonore, que les bassins d'épuration devaient être éloignés des villages. Les logements des travailleurs insalubres, pour la plupart, devaient être rénovés. Et tout ça, Bolloré ne l'a pas respecté, il a cessé d'appliquer le plan. Nous sommes tous concernés par l'huile de palme, puisque la majorité des produits que nous consommons en contient. Et donc, le consommateur n'a pas envie d'être, malgré lui, responsable de violations graves de droits humains à l'étranger.
Et pour Sherpa, c'est aux multinationales de s'assurer que les droits humains sont respectés sur toute la chaîne de production. Le groupe Bolloré ne nous a pas répondu.
Et précision de Louise Baudet, c'est évidemment Pedro Sanchez qui sera reçu par Emmanuel Macron aujourd'hui. L'actualité de Vanessa et Vitalia à présent, c'est notre rubrique C'est mon actu, comme chaque lundi dans ce journal de 13h. Vanessa, Vitalia, la première à 34 ans, la deuxième 46, et dimanche, elles manifesteront aux côtés de Robin, d'Alexandre, de Patrice, de Vincent et de beaucoup d'autres comme eux. Les deux femmes ont été grièvement blessées par les forces de l'ordre lors d'une manifestation et elles ont donc rejoint le collectif des mutilés pour l'exemple et elles appellent à une grande marche le 2 juin prochain, dimanche à Paris. Les résultats de cette blessure, ce sont des insomnies, des cauchemars, des crises d'angoisse. Au-delà des blessures physiques, perte d'un œil, d'une main, amputation d'un testicule pour certains, de la perte de l'ouïe ou de l'odorat, ces deux jeunes filles veulent témoigner du traumatisme qu'ont engendré leurs blessures sur leur vie de femme. C'est ce qu'elles feront dimanche et avant cela, maintenant, dans ce journal de 13h. Voilà ce qui s'est passé.
Le 15 décembre 2018, j'ai été manifestée avec trois amis et j'ai manifesté à peine 20 minutes et je me suis fait tirer dessus par un LBD-40 au niveau de l'arcade.
Pourquoi ?
Il se passait rien, on était moi et mes trois amis, on s'est dit on reste pas trop longtemps, on fait demi-tour. On s'est donné la main, on a fait demi-tour et là il y a une équipe de la BAC qui est arrivée sur le trottoir et qui m'a tiré à 5 mètres en plein visage. J'ai eu toute l'arcade cassée, j'ai des trous dans la rétine, dans le nerf optique. Je ne vois plus de mon œil et je ne vois que des couleurs. J'ai eu un décalement de 4 mm de la mâchoire et j'ai trois plaques en métal dans le visage qui font que j'ai un visage humain, sinon j'étais complètement déformée.
Et vous, qu'est-ce qui s'est passé ?
Moi, c'était le 5 janvier, à l'acte 8. On m'a tiré dans la tête à 30 mètres avec un flashball. Donc j'ai une triple fracture du visage.
Qu'est-ce que vous faisiez ?
Bah rien. Il y avait un feu de poubelle sur les champs. Les policiers sont venus l'éteindre. Et après, ils nous ont poussés dans une petite rue, les CRS. Et la BAC est arrivée dans une autre rue et a tiré sur tout le monde. Depuis, j'ai plein de problèmes de santé. Comme Vanessa, j'ai des problèmes d'attention.
Toutes sortes de séquelles.
Oui.
Mon vrai métier, c'est décoratrice sur vitrailliste quand on voulait peindre un vitrail avec un œil en moins. Ils m'ont retiré ma personnalité, ils m'ont retiré tout ce qui était en moi. Je suis plus la même Vanessa, je sors même plus toute seule. Je sais que je vais pas me faire tirer dessus dans la rue, hein, mais j'ai peur qu'on me pousse, j'ai peur. C'est comme ça, c'est plus fort que moi, j'ai peur. J'arrive même plus à me maquiller comme avant. De toute façon, avec un œil en moins, c'est compliqué. Mais même mettre des boucles d'oreilles ou m'habiller comme avant, j'arrive pas. J'arrive plus à être la même Vanessa.
Vous en voulez à qui, à quoi?
Moi, c'est pourquoi on m'a tiré dessus. C'est ça la question, parce qu'on m'a tiré dessus. Depuis quand en France, marcher dans la rue mérite un coup de flashball?
Moi, je pense que c'est une entreprise aussi de terrorisation psychologique. On tire sur une personne et ça atteint 50 personnes autour. Puisqu'effectivement, moi, je conseille à personne de retourner en manifestation.
Pourtant, le 2 juin, vous allez devoir aller manifester.
Alors, c'est pas une manifestation, c'est une marche de blessés. Maintenant, il est temps de dire stop. Il faut reconnaître les violences policières. Il faut reconnaître qu'il y a des victimes. Nous ne sommes pas en guerre. Nous manifestons. On va juste dans la rue lui dire stop.
Voilà, et ces témoignages, vous pouvez les réécouter sur franceinter.fr. Nous passons à l'actualité beaucoup plus légère de ce lundi 27 mai. Bonjour Fabrice Abgral.
Bonjour.
Roland Garros, Nadal sur le court.
Nadal sur le court, actuellement opposé à un Allemand, Yannick Hanfmann, 184e joueur mondial issu des qualifications. Tout en vous dire qu'il n'y a pas de problème hein, pour Raphaël Nadal en ce début de match. 3-0, il a déjà réussi à faire le break. Raphaël Nadal donc sur le court central. Je vous rappelle qu'il vise un 12e titre ici.
Rien que ça, porte
d'Auteuil. Sinon, l'exploit du jour, c'est pour une jeune Française, Diane Paris, 486e mondial niçoise. Elle a réussi l'exploit de sortir la Bélarusse Vera Lapko en deux petits sets. Diane Paris est âgée de 16 ans et 9 mois très précisément et c'est la plus jeune joueuse à remporter un match à Roland-Garros depuis 10 ans. Sinon c'est terminé pour Alizé Cornet, terminé pour Pauline Parmentier. En revanche ça passe pour le jeune Corentin Moutet, donc qualifié pour le deuxième tour.
Merci Fabrice Abgral en direct de Roland-Garros. On vous retrouve dans la plupart de nos éditions tout au long de ces 15 jours de tournoi évidemment.